Deuxième partie, philosophie moderne. Chapitre 8, René Descartes et Élisabeth de Bohême, la princesse et le philosophe. Les sens me montrent que l'âme meut le corps, mais ne m'enseigne point la façon dont elle le fait. En 1643, à La Haye, René Descartes, philosophe grisonnant, rencontre Élisabeth de Bohême, princesse palatine. Le premier s'est fait connaître par deux ouvrages majeurs, Le discours de la méthode, 1637, et Les méditations métaphysiques, 1641, qui entendent poser les bases d'une nouvelle méthode pour les sciences et d'une nouvelle métaphysique. La seconde est la fille d'un roi de Bohême détrôné en exil en Hollande. Elle a 25 ans, mais déjà la réputation d'une intelligence remarquable, aussi douée pour les mathématiques que pour les arts et les lettres, et montre un intérêt et des dispositions particulières pour la philosophie. Tous deux entretiendront, jusqu'à la mort de Descartes en 1651, une correspondance qui aura une grande influence sur celui-ci et surtout sur son dernier ouvrage, « Les passions de l'âme ». Sous ce titre, qui pourrait être celui d'une saga de l'été ou d'un roman sentimental contant l'amour contrarié d'un philosophe à la moustache frétillante pour une jeune princesse infortunée, se cache un traité de philosophie où la difficile question des interactions entre l'âme et le corps est abordée sous un jour nouveau. Si je plaisante sur la moustache de Descartes, c'est d'une part parce qu'il aborde l'une des plus belles de l'histoire de la philosophie, après celle de Nietzsche bien sûr, et d'autre part parce que certains passages croustillants de la correspondance ont pu nourrir l'imagination des lecteurs. Par exemple, en réponse à la première lettre de la princesse, Descartes assure qu'elle a mieux fait de mettre ses pensées par écrit, car, en les recevant de sa bouche, il eût été trop ébloui par ses grâces pour pouvoir les comprendre. Descartes écrit « Car j'aurais eu trop de merveilles à admirer en même temps, et voyant sortir des discours plus qu'humains d'un corps si semblable à ceux que les peintres donnent aux anges, j'eusse été ravi de même façon que me semble le devoir être ceux qui, venant de la terre, entrent nouvellement dans le ciel. » Lettre à Élisabeth du 21 mai 1643. Pas très subtil, même pour le XVIIe siècle. Élisabeth répondra, après un silence d'un mois, par une lettre reprochant à Descartes non seulement de lui avoir fait, au préjudice de son jugement, de fausses louanges, mais surtout de n'avoir pas vraiment répondu aux questions judicieuses qu'elle posait sur l'interaction entre l'âme et le corps. Car enfin, ce n'est pas pour conter fleurettes, mais bien pour discuter de philosophie qu'elle écrivait aux philosophes. En effet, la toute première lettre d'Élisabeth à Descartes mettait immédiatement le doigt sur la principale difficulté de son système métaphysique. Comment l'âme peut-elle agir sur la matière du corps alors qu'elle n'est rien de matériel? Pour comprendre en quoi cette question est cruciale chez Descartes, il me faut d'abord expliquer en quelques mots son dualisme et son mécanisme. La position de Descartes, déjà évoquée au chapitre précédent, selon laquelle l'âme est une substance distincte de toutes les substances matérielles, est appelée dualisme, ou plus rigoureusement, dualisme des substances. Selon Descartes, la nature de l'âme n'est que de pensée, en un sens large qui inclut les actes de la volonté et la sensation, tandis que la nature de la matière réside dans son extension dans l'espace, ce qu'on appellerait aujourd'hui ses propriétés physiques. Chose pensante d'un côté, chose étendue de l'autre, les deux types de substances, âme et corps, sont clairement distincts. Cette approche cartésienne s'opposait à la conception dominante dans la scolastique médiévale, selon laquelle tout être est un composé de matière et de forme, où la forme joue en quelque sorte le rôle d'âme animant les choses, et permettant d'expliquer leur activité d'une façon un peu magique. Par exemple, si une plante croît, c'est en vertu de son âme végétative qui a précisément pour fonction de la faire croître. C'est commode. Ainsi, en retirant cette âme de la matière, Descartes ouvrait la voie à une conception beaucoup plus scientifique du monde matériel. Tout phénomène physique devrait pouvoir s'expliquer par des causes physiques sans faire appel à ces formes mystérieuses. Plus précisément, pour Descartes, il s'agissait seulement de causes mécaniques, comme un vaste jeu de boules de billard où la quantité de mouvement est toujours conservée. Un corps ne peut être mis en mouvement qu'au contact d'un autre corps qui le lui transmet. Voilà, de façon très résumée, ce qu'on appelle le mécanisme cartésien. Et même s'il est erroné sur bien des points, Il faut reconnaître une certaine justesse à cette intuition, par exemple lorsque Descartes conçoit le corps des êtres vivants comme des machines d'une extrême complexité. Il lui est souvent reproché d'avoir défendu la théorie des animaux-machines, qui nie à ces derniers la moindre sensibilité. Mais cela occulte le point intéressant et novateur. Descartes soutient que le corps de tous les êtres vivants, y compris des êtres humains, est une sorte de machine. Sa théorie des animaux-machines est en fait une théorie des animaux-corps. Les animaux se réduiraient à un corps-machine sans âme et donc sans sensibilité. Tandis que l'être humain aurait ceci de particulier pour Descartes, qu'il y aurait uni à ce corps-machine une âme et donc une sensibilité. Cette âme, nous savons que nous l'avons grâce au cogito. Tant que je pense, je suis certain d'exister en tant que chose pensante, autrement dit, d'être un esprit, une âme. Le cogito, ou plus exactement l'argument modal, convainc aussi Descartes que cette âme est distincte de tous les corps. Pour comprendre pourquoi, voir le chapitre précédent sur l'argument modal en faveur de l'immatérialité de l'âme, que l'on retrouve chez Augustin et Avicenne, même si Descartes veut persuader le reste du monde qu'il est le premier à y avoir pensé. Nous voilà donc avec d'un côté ce dualisme strict qui pose l'âme comme pure substance pensante, et de l'autre côté ce mécanisme tout aussi strict d'après lequel les corps ne peuvent être mis en mouvement que par contact direct avec d'autres corps. Ces deux thèses prises ensemble posent une difficulté qu'Élisabeth, dans sa première lettre à Descartes, souligne avec raison. « Je vous prie, écrit Élisabeth, de me dire comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps pour faire les actions volontaires, n'étant qu'une substance pensante. Car il semble que toute détermination de mouvement se fait par la pulsion de la chose mue, à manière dont elle est poussée par celle qui la meut, ou bien de la qualification et figure de la superficie de cette dernière. L'attouchement est requis aux deux premières conditions, et l'extension à la troisième. Vous excluez entièrement celle-ci de la notion que vous avez de l'âme, et celui-là me paraît incompatible avec une chose immatérielle. » Lettre d'Élisabeth à Descartes du 16 mai 1643. Il est amusant de voir Élisabeth utiliser les principes de Descartes contre Descartes. Ainsi lui rappelle-t-elle que, d'une part, son mécanisme implique que seules les propriétés d'un corps peuvent déterminer le mouvement d'un autre corps, et que, d'autre part, son dualisme refuse à l'âme toute propriété du corps. Pourtant, il semble bien que l'âme agisse sur le corps dans le cas du mouvement volontaire. Une pensée, la volition, semble déterminer un mouvement du corps. En sens inverse, on peut aussi remarquer que des affects du corps, par exemple un coup de marteau sur le petit doigt, semblent avoir des effets sur l'âme, une sensation de douleur assez vive, n'est-ce pas ? En somme, il semble qu'il y ait des interactions entre l'âme et le corps, alors même que le dualisme et le mécanisme de Descartes impliquent que ces interactions sont impossibles. Voilà qui est fort embarrassant. Descartes avait déjà en partie traité ces questions dans ses Méditations métaphysiques. Il y faisait remarquer que l'âme et le corps interagissent, certes, et qu'en outre, l'âme n'est pas comme un pilote en son navire, c'est-à-dire aux commandes du corps, mais affectivement distinct de ce à quoi il commande. En effet, lorsqu'un câble du navire est rompu, le pilote ne ressent pas cette affection, mais l'aperçoit seulement par l'esprit. Tandis que lorsqu'un câble du corps se rompt, l'expérience en notre âme est tout à fait différente. Nous ressentons la douleur en nous-mêmes. Ainsi, écrit Descartes, cette expérience de la douleur nous montre que l'âme serait comme unie avec le corps, composant comme un seul tout. Descartes parlera de l'union du corps et de l'âme, ce qui, à première vue, est en totale contradiction avec son dualisme. Et c'est donc bien légitimement sur ce point qu'Élisabeth attend des éclaircissements. La première lettre du philosophe en réponse à la princesse est assez déroutante, et pas seulement parce que dès le premier paragraphe, il compare le corps de son interlocutrice à celui d'un ange. Descartes se contente de faire valoir que nous avons une notion intuitive de l'union de l'âme et du corps et présente une étrange comparaison entre cette intuition et celle que nous avons de la pesanteur. Ainsi, nous avons l'impression que la force de pesanteur s'exerce à distance et sans contact, et nous devrions plaquer cette même intuition sur le rapport de l'âme au corps. Cet argument est d'autant plus problématique d'un point de vue cartésien que Descartes s'est justement efforcé d'expliquer la pesanteur et le mouvement des planètes, dans le cadre de son mécanisme, en rejetant l'idée d'action à distance. Élisabeth ne se laissera pas convaincre par cet argument des plus douteux et reviendra à la charge dans sa deuxième lettre. « Je ne peux comprendre, écrit-elle, l'idée par laquelle nous devons juger comment l'âme, non étendue et immatérielle, peut mouvoir le corps. Et j'avoue qu'il me serait plus facile de concéder la matière et l'extension à l'âme que la capacité de mouvoir un corps et d'en être ému à un être immatériel. Il est très difficile à comprendre qu'une âme, comme vous l'avez décrite, après avoir eu la faculté et l'habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs et que, pouvant subsister sans le corps et n'ayant rien de commun avec lui, elle en soit tellement régie. » Lettre d'Élisabeth à Descartes du 20 juin 1643. De façon intéressante, Élisabeth semble nettement penchée vers le matérialisme. Elle confesse ici qu'il lui est plus facile de renoncer à l'immatérialité de l'âme que d'accepter l'idée qu'une âme immatérielle agisse sur la matière. Thomas Hobbes, l'un des rares autres matérialistes du XVIIe siècle, faisait une remarque similaire dans ses objections aux méditations. Il écrivait « De ce que nous pouvons séparer la pensée d'une matière qui pense, il semble qu'on doit plutôt inférer qu'une chose qui pense est matérielle qu'immatérielle. » Quelques siècles plus tard, cette position matérialiste, ou plutôt physicaliste, disons-nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a rien en dehors du monde physique, deviendra la plus commune en philosophie comme ailleurs. Et Élisabeth en serait donc, mine de rien, une précurseuse à une époque où il n'y en avait guère. C'est en soi assez remarquable. Malheureusement, les femmes de son temps n'étaient guère encouragées à écrire des traités de philosophie, si bien que sa pensée ne sera pas davantage développée en dehors de sa correspondance avec Descartes. La réponse de ce dernier à la deuxième lettre d'Élisabeth est beaucoup plus claire, mais, me semble-t-il, tout aussi peu convaincante. Descartes écrit « L'âme ne se conçoit que par l'entendement pur. Le corps, c'est-à-dire l'extension, les figures et les mouvements, se peuvent aussi connaître par l'entendement seul, mais beaucoup mieux par l'entendement aidé de l'imagination. Et enfin, les choses qui appartiennent à l'union de l'âme et du corps ne se connaissent qu'obscurément par l'entendement seul, ni même par l'entendement aidé de l'imagination, mais elles se connaissent très clairement par les sens. D'où vient que ceux qui ne philosophent jamais et qui ne se servent que de leurs sens ne doutent point que l'âme ne meuve le corps et que le corps n'agisse sur l'âme. Mais ils considèrent l'un et l'autre comme une seule chose, c'est-à-dire ils conçoivent leur union. Car concevoir l'union qui est entre deux choses, c'est les concevoir comme une seule. Et les pensées métaphysiques qui exercent l'entendement pur servent à nous rendre la notion de l'âme familière, et l'étude des mathématiques qui exerce principalement l'imagination en la considération des figures et des mouvements nous accoutume à former des notions du corps bien distinctes. Et enfin, c'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux choses qui exercent l'imagination qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps. J'ai quasi peur que votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement, mais cela serait contraire au respect que je lui dois et que je ne manquerai jamais de lui rendre. Et je puis dire avec vérité que la principale règle que j'ai toujours observée en mes études et celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour aux pensées qui occupent l'imagination et fort peu d'heures par an à celles qui occupent l'entendement seul, et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit. Ce que je prends la liberté d'écrire ici à votre Altesse pour lui témoigner que j'admire véritablement qu'elle ait pu vaquer aux méditations qui sont requises pour bien connaître la distinction qui est entre l'âme et le corps. Mais j'ai jugé que c'était ces méditations, plutôt que les pensées qui requièrent moins d'attention, qui lui ont fait trouver de l'obscurité en la notion que nous avons de leur union. Lettre de Descartes à Élisabeth du 28 juin 1643. En somme, pour comprendre l'union de l'âme et du corps, n'y pensez pas, vivez. Si cette union semble obscure à la pauvre Élisabeth, c'est qu'elle passe justement trop de temps à philosopher, à méditer sur la nature de l'âme. Pourquoi se casser la tête sur des questions si difficiles alors qu'elles se résolvent pourvu qu'on les oublie ? Descartes, plus raisonnable, ne consacre à la métaphysique que quelques heures par an, juste assez pour un cogito qui lui rappelle que l'âme est distincte du corps, et il peut laisser le reste du temps au relâche des sens et au repos de l'esprit, dans lesquels il sent bien, après tout, qu'il ne fait qu'un avec son corps. Et quoi, cela entre-t-il en contradiction avec ce qu'il a conclu par sa méditation ? Il n'est plus l'heure de méditer avant l'année prochaine. Ô Descartes, ou la sagesse de la paresse. De fait, ce philosophe était un grand paresseux qui, dit-on, restait volontiers 10 heures par jour au lit. Sur la fin de sa vie, la reine de Suède qui le fit venir à sa cour aura la fantaisie de vouloir s'entretenir avec le philosophe chaque matin à 5 heures. Le leftard invétéré ne tiendra pas 2 ans avant de mourir. Descartes, en effet, est mort d'une pneumonie le 11 février 1650. La rigueur du climat suédois et l'horaire inhabituellement matinal de ses cours sont habituellement présentés comme 2 causes principales de la détérioration de sa santé. Selon une hypothèse de l'universitaire allemand Theodor Ebert, qui ne convainc pas ses collègues mais qui a le mérite d'être romanesque, Descartes aurait plutôt été empoisonné par une hostie tendue par l'aumônier François Vioguet. Le prêtre aurait redouté que la reine ne soit dissuadée de se convertir au catholicisme par l'influence du philosophe, notamment parce que celui-ci doutait du dogme de la transsubstantiation selon laquelle le corps du Christ est réellement présent dans l'hostie lors de l'Eucharistie. De ce point de vue, le mode opératoire de l'assassinat serait assez ironique. Ainsi donc, pour Descartes, l'union de l'âme et du corps est évidente dans l'expérience quotidienne de l'action et de la sensation. Soit. Mais cela répond-il vraiment aux questions de la princesse ? Ce qui l'intéressait à juste titre, c'était de savoir comment cette union de l'âme et du corps pourrait être rendue compatible avec le dualisme des substances et le mécanisme cartésien. 3 idées qui semblent impossibles à soutenir en même temps. Mais Descartes, dans sa lettre, n'a pas fait un pas vers une solution. Il semble moins enclin à en discuter qu'à donner des raisons de ne pas le faire. Sans surprise, Élisabeth, dans sa réponse, ne se rendra pas à l'invitation de Descartes de cesser de philosopher pour se contenter de sentir et vivre l'union de l'âme et du corps. Elle écrit « Je trouve aussi que les sens me montrent que l'âme meut le corps, mais ne m'enseigne point, non plus que l'entendement et l'imagination, la façon dont elle le fait. Et pour cela, je pense qu'il y a des propriétés de l'âme qui nous sont inconnues, qui pourront peut-être renverser ce que vos méditations métaphysiques m'ont persuadé, par de si bonnes raisons, de l'inextension de l'âme. Et ce doute semble être fondé sur la règle que vous y donnez, en parlant du vrai et du faux, et que toute l'erreur nous vient de former des jugements de ce que nous ne percevons pas assez. » Lettre d'Élisabeth à Descartes du 1er juillet 1643. Il est savoureux de voir la princesse Élisabeth, pas moins philosophe que son interlocuteur, utiliser les principes de Descartes contre Descartes. On peut à nouveau constater qu'elle penche du côté matérialiste. Face aux difficultés que posent les interactions entre l'âme et le corps, elle s'avoue encline à envisager que l'âme ne soit pas si immatérielle que Descartes le soutenait. L'argument tiré de son cogito n'est peut-être pas si convaincant qu'elle l'avait cru. En tout cas, sentir l'union de l'âme et du corps ne la satisfait pas. Elle veut comprendre ce qu'il en est. Et elle ne sera pas la seule. Tous les philosophes qui réfléchiront à ces questions après Descartes, tout en s'appuyant sur son œuvre, s'efforceront de résoudre d'une façon ou d'une autre cette difficulté centrale. On peut citer l'occasionalisme de Malebranche, les interactions entre l'âme et le corps sont des miracles réglés et réalisés par Dieu lui-même, rien que ça. Le monisme neutre de Spinoza, il n'y a en fait qu'une seule substance, appelez-la Dieu ou la nature si ça vous chante, et cette substance a un aspect physique et un aspect mental. Ou le parallélisme de Leibniz. Il n'y a pas d'interaction entre l'âme et le corps, seulement l'illusion d'interaction grâce à des séries causales parallèles bien réglées, un peu comme l'illusion que l'image d'acteurs remuant leur bouche cause les sons que nous entendons, alors que les pistes vidéo et audio sont évidemment distinctes. Quoi qu'il en soit, il est remarquable que ces questions sur les rapports entre l'esprit et le corps restent ouvertes et débattues dans la philosophie contemporaine. Les objections d'Élisabeth à Descartes, 4 siècles après leurs échanges, sont encore les nôtres. Quelques livres pour aller plus loin. René Descartes, correspondance avec Élisabeth, Flammarion, collection GF, 1989. Cette édition reproduit non seulement l'intégralité de la correspondance entre Descartes et Élisabeth, mais aussi une sélection de lettres de Descartes à d'autres interlocuteurs sur les mêmes thèmes. Je n'ai évoqué dans ce chapitre que les 5 premières lettres qui concernent l'interaction de l'âme et du corps, Le reste de la correspondance est très différent, souvent personnel et touchant, et finit par développer surtout des thématiques morales et pratiques qui seront dans une large part à l'origine du traité des passions de l'âme de Descartes. Élisabeth est une interlocutrice exigeante, mettant régulièrement le doigt sur les faiblesses des arguments de Descartes, comme dans les lettres du 30 septembre et du 28 octobre 1645, où elle argumente contre ce dernier, de façon ingénue mais audacieuse, que croire en l'existence de Dieu, en l'immortalité de l'âme et en la providence divine ne semble fournir aucune aide pratique pour guider nos jugements moraux. Tandis que Descartes soutenait au contraire qu'il suffit de connaître ces vérités pour être assuré de bien juger. On peut en revanche reprocher à cette édition un oubli assez incroyable. Élisabeth de Bohême n'y est pas créditée. Un seul nom d'auteur en couverture, celui de Descartes, et nulle autrice. Autrice, pour ceux qui auraient le mauvais goût de râler contre ce néologisme, sachez qu'il était précisément en usage du temps d'Élisabeth, c'est donc bien plutôt un archaïsme, témoin d'une époque étrange où l'on croyait qu'auteur pouvait se dire au féminin. René Descartes, Méditation métaphysique, Flammarion, collection GF, 2009. C'est l'un des textes les plus classiques de l'histoire de la philosophie. Vous pouvez prendre 6 jours pour lire les 6 méditations et vous reposer le 7e comme Dieu, dont vous aurez prouvé l'existence au 3e et 5e jour. Il y a bien des passages un peu touffus, surtout dans les objections et les réponses, mais vous pourrez sans peine lire les 2 premières méditations, avant que Dieu ne vienne s'en mêler, qui sont les plus intéressantes et les plus étudiées. Jaegwon Kim, Philosophie de l'esprit, Ithac, 2008. Si ces questions de l'interaction entre l'esprit et le corps vous intéressent, sachez que c'est au cœur d'une des branches les plus passionnantes et actives de la philosophie contemporaine, la philosophie de l'esprit. Ce livre excellent en est une introduction à la fois accessible et exigeante par l'un des plus grands spécialistes du sujet. Que demander de plus ?